Mon invité cumule plus de 50 ans de vie publique, dont 40 en politique municipale et provinciale. Il a été conseiller municipal pendant 4 ans, maire de Bécancour en 2 temps pendant plus d'un quart de siècle, député de Nicolet-Yamaska pendant 2 mandats. Pendant 10 ans, il a été PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, organisation pour laquelle il agit toujours depuis 2022 comme conseiller. La vie le destinait à prendre la relève de ses parents comme commerçant dans le secteur Saint-Angèle, mais il a emprunté un tout autre chemin. Maurice Richard, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Richard, la population de Bécancour, de la région et du Québec vous connaît surtout pour votre carrière au service du public, mais certains connaissent peut-être un peu moins vos racines. Avant de parler de votre vie professionnelle, j'aimerais qu'on parle du jeune Maurice Richard, le fils de Grégoire, épicier boucher de Saint-Angèle-de-Laval, et de Louisette Auroy, qui, grâce à leur commerce, étaient des figures bien connues du village. Parlez-moi justement du noyau familial dans lequel vous avez grandi.
Premièrement, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de me faire réfléchir sur ces années-là, même si je suis toujours actif. Puis je pense plus à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain. C'est ça quand tu es dans la vie active. Mais en fait, le rappel, c'est que je suis d'une famille de 14 enfants, le deuxième, 10 garçons, 4 filles. Voisin des Sœurs de l'Assomption, servir le curé à la messe tous les matins à 7 heures. Je suis né dans l'alimentation avec l'orientation presque quotidienne de dire « Rappelez-vous, le client a toujours raison. » C'est particulier, ça. Donc, servir avec les sœurs qui sont juste à côté, qui sont aussi au service en éducation et en formation à l'époque. Donc, tu es élevé là-dedans. Puis j'ai été chanceux, en fait, de... Il y a deux choses que tu ne choisis pas dans la vie. Tu ne choisis pas ta naissance, où tu nais puis par qui, et la fin, évidemment. Mais entre les deux, c'est intéressant. Il y a tout un espace là, que je m'occupe actuellement avec beaucoup de vigueur. Mais à l'époque, c'était quelque chose de vivre dans une... Et en plus, une famille de 14 ans, quand tu es dans les premiers, tu dois donner l'exemple aux autres. Mm-hmm. Donc déjà, ça part un peu service public. Là. Tu dois donner l'exemple à tes frères et à tes sœurs.
Donc, ça a toujours été naturel pour vous d'aller vers les gens dans ce contexte ou dans ce milieu familial-là de commerçants?
Oui, puis après coup, quand tu analyses ça, tu fais déjà la différence entre écouter et entendre. C'est deux mots différents. Hein. Tu peux entendre le bruit, là, mais l'écouter comme faux, savoir qui l'a fait le bruit, puis pourquoi il a fait le bruit. C'est un peu ça. Hein. Et toute ma vie jusqu'à maintenant et pour le futur, c'est... Comment on trouve les solutions et comment tu travailles avec les autres. Moi, les gens ne travaillent pas avec moi. Non. Je travaille avec les autres et je veux travailler avec les meilleurs. Et une partie de mon travail avec le temps, dans le cheminement, vous allez voir, c'est la force que je peux avoir, c'est d'avoir choisi les bonnes personnes et de travailler avec des gens compétents et apprendre, en fait, en même temps. Mais j'ai fait une partie, mais avec des gens beaucoup plus compétents que moi.
Et ça, c'est ce milieu familial-là est également une école de la politique, parce que je pense que votre père était quand même particulièrement impliqué.
Oui, c'est-à-dire que ce n'était pas un politicien, mais c'était un organisateur. C'était quelqu'un qui aimait la politique, puis qui était impliqué, puis qui n'avait pas peur de donner poliment ses opinions, parce qu'on était en affaires. Puis en affaires, il fallait, dans beaucoup de cas, il disait, il ne faut pas dire dans quel politique. Dans le temps, tu avais deux partis, tu étais bleu ou tu étais rouge. Puis mon père était libéral dans un milieu qui était bleu. Qui était conservateur. La région de la Mauricie, du centre du Québec, là, à l'époque, là, avec Antonio Illy, puis avec Bellemare, puis le premier ministre Duplessis, là, un rouge, là, c'était un marginal. Là. Mais ça ne dérangeait rien. Ça n'a pas dérangé du tout notre façon, puis ça a fait partie de notre formation aussi, de respecter l'opinion des autres.
Donc, vous devenez rapidement une figure connue, au point où vous devenez même très tôt, très jeune, en 1969, président du comité des fêtes du centenaire de Saint-Angèle à 23 ans. Vous êtes le plus jeune du groupe. Comment étiez-vous perçu à l'époque?
C'est intéressant parce que c'est là que ça commence le respect des autres. Il y a des personnes beaucoup plus âgées. Puis quand tu es plus âgé, des fois, tu as tendance à dire que c'est toi qui as la bonne solution. Mais moi, j'étais réceptif aux idées. Par contre, plus de préoccupations sur c'est quoi les solutions, c'est quoi les méthodes. En innovant, pas trop. Tranquillement, en modifiant puis en personnalisant les décisions. Et j'avais de la facilité, je pense, avec les personnes plus âgées à les écouter puis à les entendre, à réfléchir avec eux et puis bâtir. Puis puisque j'étais impliqué socialement, puis je connaissais tout le monde, puis toutes les familles, parce qu'on était l'épicier du coin. Alors, puis une famille connue et reconnue, en fait, je pense que c'était l'avantage d'avoir eu des parents qui nous ont appris à respecter les autres.
Parlons un peu, M. Richard, de votre parcours académique qui n'est pas banal. Vous avez suivi des cours en gestion administrative et en coupe de viande. Vous avez aussi poursuivi des études pour devenir détective privé. Force est de constater aujourd'hui que vous avez opté pour un autre chemin. Mais vous avez déjà dit que cette formation vous avait été utile pendant toute votre vie?
Ah ben d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi, un dossier, il est monté comme si c'était un dossier judiciaire. Dans un dossier, pourquoi on me demande ça? Pourquoi on va avoir ce service-là? C'est basé sur quoi? Puis à qui? C'est quoi le but? Puis à qui ça va profiter? Alors, quand tu argumentes tous tes dossiers de cette façon-là, ça rend le dossier intéressant, là. Vous savez, puis en plus, c'est faire les constats, les alternatives, les solutions. Mais c'est toujours, mes dossiers sont tous adressés de cette façon-là. Et je voulais vraiment être, d'attendre, appeler ça détective. Et j'avais suivi des cours dans un institut privé à Montréal, dans le temps, parce que je n'avais pas l'École nationale de police, là, qu'on a à Nicolet actuellement, là. Pas du tout. Donc, mais le jour où j'ai reçu des diplômes, à ce niveau-là, mon père a perdu un employé principal, un boucher, qui est en charge un peu de l'épicerie aussi. Puis il a dit, prends-donc la relève en attendant que. Mais ça, c'est arrivé au même moment, on est en 70-71, où là, je suis arrivé en politique active.
Sans avoir de formation spécifique, vous connaissez très bien les rouages de l'administration publique jusqu'à devenir, comme on disait plutôt, président-directeur général d'une importante société d'État, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. On va y revenir plus tard, mais votre cheminement est plutôt atypique, si on peut dire. Est-ce que vous vous considérez comme un autodidacte?
Oui, oui. Absolument. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je n'avais pas prévu cette carrière-là, là, parce que ça devient une carrière après 50 ans là, quand même. Non, pas du tout. C'était comment on aide la société, comment on participe au dossier. D'ailleurs, votre invitation aujourd'hui m'a fait réfléchir sur le passé, là, même si c'est l'avenir qui me préoccupe. Mais je n'avais pas planifié ça, là. Sauf que les dossiers se sont présentés et j'avais toujours le défi d'être partenaire. Vous me demanderiez quels sont les dossiers principaux que tu retiens. Il n'y a pas de dossiers principaux. Mais par contre, depuis 71, tous les dossiers, à part peut-être des exceptions, j'étais partenaire dans la démarche. Vous pourriez me nommer un dossier, vous dire oui, c'est moi qui ai fait telle démarche, ou j'en ai fait ça avec une équipe, je pourrais vous nommer les personnes. Mais je n'ai pas mon nom là-dessus, pas du tout. Mais j'étais partenaire dans le développement économique depuis toujours, en fait. Et comment servir les gens, et particulièrement au niveau du développement économique et social.
Avant même d'être élu comme conseiller municipal, vous êtes déjà engagé et un des dossiers que vous avez porté, justement, c'est un dossier social, logement pour personnes à faible revenu. Parlez-nous du contexte de l'époque et comment vous avez tenté, justement, de porter ce dossier-là au conseil municipal.
Oui, au départ, ça, c'est quand je suis arrivé en politique. Il y avait un manque vraiment de logement. C'est assez curieux qu'aujourd'hui, c'est encore vrai. Manque de logement pour les personnes à faible revenu. Étant dans l'épicerie, je savais très bien les familles. D'ailleurs, à l'époque, on les facturait même. Ils payaient à la fin du mois, puis on voyait les gens où il y avait un besoin d'avoir des logements à prix modique. Et le gouvernement venait d'inventer à l'époque les HLM. Parmi les premiers HLM qu'il y a eu au Québec, ça a été à Bécancour, avec deux volontés. La volonté d'abord des personnes à faible revenu et aussi de compenser pour les fameux travailleurs qui vont arriver à l'époque dans le parc de Bécancour, qui devait être un boom économique à l'époque. Le parc venait d'être formé quelques années auparavant. Et là, on a eu les premiers HLM au Québec, à Bécancour, au plateau Laval, sans unité de logement, au plateau Laval. Et c'était mon défi, même pas une promesse électorale. On a besoin de ça absolument. Puis le conseil de l'époque n'était pas nécessairement totalement favorable. Et c'est nettement ce qui m'a amené à être élu en 71, effectivement, avec le défi de bâtir des logements pour les personnes à faible revenu.
Votre adversaire à ce poste de conseiller en 1971, c'est votre oncle. D'ailleurs, il y a une phrase que vous avez dite lors de votre victoire qui vous a suivi longtemps.
Oui, en fait, c'était le concurrent là, comme conseiller, là, résident dans le secteur Saint-Angèle, et c'était mon oncle par alliance. Donc, tout de suite après l'élection, les gens disent « C'est quoi, Maurice, tes impressions? » Je dis « Bon, ben là, pauvre mon oncle. » Et c'est ce qu'a fait la une du quotidien régional de Nouvelle-Est à l'époque. « Pauvre mon oncle. » Mais on est devenus amis par la suite, après ça s'est oublié. Mais on n'aurait pas voyagé dans le même auto les 6 premiers mois, je pense.
Donc, ça vous mène, ça, en 1975, à un moment important. Vous vous présentez aux élections à la mairie dans le but de succéder au premier maire de la ville regroupée de Bécancour, M. Godette, qui quitte après 10 ans dans cette fonction. Vous l'emportez contre Jacques Blondin et vous devenez, à 29 ans, le plus jeune maire au pays. Et ça n'est pas passé inaperçu, là.
Non. Non, à l'époque, remarquez que même aujourd'hui, à 29 ans, quelqu'un, homme ou femme, maire d'une ville, il n'y en a pas beaucoup, même encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était exceptionnel. Assez que quand on allait rencontrer des fonctionnaires dans l'appareil gouvernemental à Québec, par exemple, j'allais avec le directeur général, qui avait à l'époque comme 50 quelques années, et là, il donnait la main à André Villeneuve à l'époque, notaire Villeneuve, puis le notaire disait non, c'est lui le maire. C'est assez humoristique. Mais c'est correct. Être marginal, c'est pas un défaut. Le seul avantage que tu as quand tu es marginal, à n'importe quel niveau, ça t'oblige à performer. Parce que sinon, tu attaques sur ta marginalité. C'est vrai dans tout, c'est pas vrai rien qu'en politique. Je pense qu'à l'époque, c'est simple. Quand tu es compétent, tu es compétent.
Vous êtes même invité par Réal Giguère à l'émission Parle-Parle Jazz. Parlez-nous un peu de cette expérience.
Ah, ça a été toute une expérience. D'ailleurs, le monsieur était sympathique. C'était un monsieur qui souriait beaucoup. À ce moment-là, c'était l'émission de l'heure. Hein. Et c'était intéressant. Et lui, ça le fascinait de voir comment ça se fait que j'étais arrivé là, à cet âge-là. Et un peu votre question de tantôt, là, comment faisiez-vous pour travailler avec des gens tous plus âgés que vous, là, à l'interne, comme au niveau de votre population? Mais c'est une belle façon d'identifier, de permettre aussi à la relève dans le monde public servir un peu d'exemple à l'époque. Ce n'est pas une question d'âge, c'est tout simplement une question d'intégrité et encore plus une question de jugement. Mais un petit élément qui... Moi, quand j'étais étudiant, j'avais un nom pour jouer, entre autres, au hockey, Maurice Richard. Et la minute que je me présentais à un jeu, softball, baseball ou hockey, on disait non, Maurice, toi, tu vas arbitrer. Et j'ai toute ma vie arbitré. Et aujourd'hui, après coup, tu réalises pourquoi il te nommait. C'est qu'il avait confiance en toi, puis il avait confiance en ton jugement. Donc, j'ai passé toute mon adolescence à arbitrer. En région, pas seulement qu'à Bécancour à l'époque. Non? Donc, j'ai toujours été identifié comme un arbitre. Et quand tu es maire, tu arbitres. Quand tu es un homme public, ton rôle, tu n'es pas boss du conseil municipal. Ce n'est pas toi, puis tu n'es pas au-dessus des conseillers. Tu es tout simplement l'arbitre autour de la table.
Votre arrivée à la barre de la ville se fait à un moment où ça bouge beaucoup à Bécancour, notamment dans le parc industriel. Et il y a une image de ça qui en témoigne très bien. C'est votre assermentation qui se passe à bord d'un train, en fait.
Oui, du train du CN en 1975. Et c'était la première fois que le Canadien national faisait l'assermentation d'un maire d'une ville à bord du train. C'était l'inauguration du chemin de fer dans le parc industriel, et en même temps, un beau rappel au niveau de ma propre famille. Mon grand-père maternel était chef de gare.
Quelles sont les entreprises qui, à ce moment-là, s'implantent? Là? Ça commence à bouger là, après quelques années, peut-être, où ça a été plus lent?
Oui, bien, en fait, il faut se rappeler, il y a quelques dates très simples à rappeler. Là. La ville de Bécancour, une des premières villes fusionnées au Québec, en même temps que Ville-de-Laval, en 1965. 1967, c'est le pont La Violette, le lien ombilical entre la rive nord et la rive sud, et la ville en 68. Tout ça se fait. Donc, en 71, à part le pont qui s'est rejoint, il n'y a pas d'actifs sur les terrains. Là. Il y a eu 7000 hectares, 95 contrats, on a acheté des terres qu'on a achetées, qu'on n'a pas expropriées comme gouvernement, qui est le parc actuellement. Et on ne fait que commencer là, à réfléchir comment on va le développer, là. Donc, c'est plus des infrastructures qui sont faites par la société d'État à ce moment-là. La ville n'est pas impliquée comme telle, c'est vraiment le gouvernement, la société du parc. Et la ville, elle a un autre souci, beaucoup plus grand que ça, deux niveaux énormes. De l'eau potable de l'aqueduc dans l'ensemble des 6 secteurs, ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait de l'aqueduc rien que dans les villages, puis des privés. Il y avait seulement Gentilly qui avait des sources naturelles qui étaient mieux équipées que les 5 autres secteurs, je pense, en eau potable. Et c'était particulièrement le réseau routier. Il y avait de l'asphalte dans le village, pour bien se comprendre, puis toutes les rues étaient en gravelle, puis au printemps, c'était incarrossable. Donc, le défi était beaucoup plus de servir nos citoyens dans chacun de ce qu'on appelait dans le temps des rangs, qu'il fallait tout asphalter. Alors, la préoccupation de la ville, elle était directement là les premières années.
Donc, ça fait partie des projets, ça, qui ont fait en sorte que la ville devait évoluer avec l'évolution du parc.
Tout à fait. D'ailleurs, en humour, on disait « quand la rue de l'île Montesson, qu'on appelle la Petite Floride, là, sera asphaltée, la ville aura complété son réseau, son réseau routier et son réseau d'asphaltage. » Vous savez quoi aujourd'hui? La rue Montesson et l'avenue de l'autre côté, en face là, de Lens, c'est asphalté avec tous les services publics.
Arrive pour vous un deuxième mandat en 1979. Vous l'emportez alors contre Julien Lauzier. Ça se poursuit du côté du parc industriel avec l'arrivée de Péchiné, du gaz naturel. Et de son côté, la ville de Bécancour poursuit sa transformation avec l'achat du manoir Bécancour où on établit l'hôtel de ville, inauguration de l'aréna également. Parlez-nous un peu de cette époque.
Ah, c'est tout un œuvre. Premièrement, Julien Lauzier, c'était le premier industriel dans le parc, Béragui, qui faisait des tuyaux de haute expansion pour les chauffages des entreprises. Un gars qui était très impliqué socialement avec la Chambre de commerce. Un chic monsieur là, qui voulait avoir une expérience municipale. Mais là, le parc, à ce moment-là, commence à se développer. Là. C'est un moment là, d'effervescence avec... des petites entreprises, mais surtout des infrastructures, le réseau routier dans le parc, le lot industriel, l'amorce du quai en eau profonde. Alors, c'est plus des démarches qui ont été faites, qu'on appellerait d'infrastructures de base dans le parc.
En 1983, vous sollicitez un autre mandat, un troisième. Vous êtes élu par acclamation. Cependant, ce mandat sera incomplet puisque vous serez élu plus tard député au provincial. Nous y reviendrons dans un instant. Mais sur le plan municipal, encore une fois, c'est une période florissante avec l'arrivée notamment de la luminerie de Bécancour.
Oui. Ben en fait, quand la luminerie de Bécancour est arrivée, pour pas, sans déprécier les autres entreprises qui étaient majoritairement des multinationales, la luminerie, c'est le moment où ça, c'est d'ailleurs les Français, Péchiné, avec négocié avec M. Bourassa à l'époque, ça venait de dire l'irréversibilité du parc. Parce qu'avant l'arrivée de la luminerie, il y a toujours quelqu'un qui disait... C'est de la fumisterie, c'est de la foutaise, ce parc-là va fermer un jour, on ne fera jamais ce développement-là. C'est exceptionnel que ça appartienne au gouvernement du Québec, c'est le seul parc qui appartient au gouvernement, les autres sont privés ou municipaux. Mais quand la luminerie est arrivée, au-delà de 1000 emplois, investissement majeur, à partir de là, c'est-à-dire le parc, il est là pour se développer.
On arrive maintenant à vos premiers pas en politique provinciale. Le 2 décembre 1985, vous êtes élu comme député de Nicolet, c'est le nom que porte la circonscription en ce moment. Vous l'emportez sur Yves Beaumier du Parti québécois. Mais cet intérêt-là pour la politique provinciale, ce n'était pas tout à fait nouveau, puisque déjà en 1981, vous aviez manifesté de l'intérêt.
Oui, à ce moment-là, j'étais maire de la ville de Bécancour et le chef du Parti libéral, c'est M. Ryan à l'époque. Mais il avait fait le choix, lui, de nommer M. Lambert parce qu'il voulait avoir un agriculteur. Le comté était agricole et selon lui... Le député devrait être un agriculteur. Et donc, ça a été M. Lambert. Et moi, je suis demeuré, en fait, à la mairie. Et en 85, effectivement, je me suis présenté au Parti libéral.
Avec la volonté de porter quel dossier à Québec?
Deux dossiers. Toujours le même dossier dans ma tête d'aider les personnes à faible revenu et le développement régional. Parce que rappelons-nous que l'arrivée des MRC au début des années 80, c'est nouveau, là. C'est le schéma d'aménagement, c'est permettre à l'ensemble des municipalités, quelle que soit leur grosseur, de se parler entre elles, de développer la région. Et d'ailleurs, les circonstances ont fait que je suis devenu président de la région durant plusieurs années, ce qu'on appelait les CRE dans le temps, Conférence régionale des élus. Et ça, c'était mon défi. Si tu veux régler des dossiers, il faut que tu te parles. Et au municipal, il n'y avait pas d'échange vraiment. J'avais beau faire partie de deux unions, la Fédération québécoise des municipalités, c'est encore vrai aujourd'hui, ou l'Union des municipalités du Québec, les deux unions dans lesquelles j'ai eu à siéger comme représentant. Mais la réalité, c'est sur le terrain que ça se passe. Alors, les municipalités, ce n'est pas une question de grosseur. C'est ton client, et le client n'est pas trop différent d'une municipalité à l'autre. C'est comment tu t'aides, comment tu t'entraides. Et encore aujourd'hui, les MRC ont encore ce défi-là d'échanger du personnel, de se structurer ensemble et de chercher l'efficacité, en fait. Et ça commençait au début des années 80. Et ça m'a toujours intéressé de... Moi, le contact humain, c'est nécessaire en politique. On doit le forcer s'il le faut. Tout est un jeu de contact, de connaissances. et de liens, de chimie qui existent, en faisant aussi toujours un peu d'humour. Je rejoins un peu les cris de mon ex-collègue Jean-Guy Dubois, qui disait que en politique, il faut que tu t'amuses un peu en même temps. Il faut que ce soit intéressant. Et le contact humain, c'est la base de la politique.
Qu'est-ce que vous retenez de ce premier mandat? Est-ce qu'il y a des réalisations qui vous apparaissent plus significatives que d'autres?
Pas vraiment. C'est plus l'apprentissage. Hein. Moi, j'ai fait deux mandats comme député, puis je suis revenu immédiatement après à la mairie. Avec le message des citoyens, on t'a permis d'aller prendre de l'expérience pour connaître la machine gouvernementale, parce que c'est une machine. C'est ça, en fait, le rôle principal que j'ai eu à faire comme ma période de député, c'est pour revenir avec cette expertise-là qui me sert tous les jours.
Et ça se poursuit en 1989 avec le début d'un deuxième mandat, élection donc que vous remportez contre Guy Vachon du Parti québécois. Deuxième mandat, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez particulièrement?
Bien, le deuxième mandat, on arrive avec des volontés de développement régional. Le parc aussi commence à avoir de gros projets. On a besoin, dans le temps, il est même question de la 30 qui s'en irait vers l'ouest, là, vers Nicolet. La 55, éventuellement, que notre député Donald Martel est en train de régler, là, la doubler jusqu'à la 20. Là. Très bonne nouvelle. Mais déjà, c'était là, dans ces années-là, là, de voir comment on fait le lien Rive-Nord, Rive-Sud, entre l'autoroute 40 et l'autoroute 20, cordon ombilical au centre du Québec. Ça faisait partie des grands défis, même à cette époque-là. Là. Mais ça, c'est des défis gouvernementaux, là, en fait, effectivement.
On entre dans une période où la question nationale est à l'avant-plan. Il y a eu l'échec de l'accord du lac Meech. Ensuite, une tentative de réparer les pots cassés avec, ouais, avec l'entente de Charlottetown. Vous êtes président du comité du oui, là, et M. Plamondon du comité du non. Et il a déjà écrit que vous étiez un adversaire redoutable, mais toujours cordial. C'est un trait de personnalité.
Oui, puis Louis, c'est un ami, en fait. Et même, il est arrivé, quelquefois, on voyageait ensemble. Là, quand on allait au même... Parce que les comtés fédéraux sont plus grands que les comtés provinciaux. Donc, moi, j'étais inclus dans le comté de Richelieu à l'époque. Et Louis, c'est un ami. On allait presque aux activités, pas presque, à toutes les activités en même temps. Et c'est arrivé fréquemment qu'on voyageait dans le même auto. Alors, pour ce qui est de la période du oui et du non, on partageait les mêmes tribunes, là. Je ne dis pas qu'on s'en amusait, là, parce que c'était quand même un dossier sérieux, là, mais on avait un très grand respect l'un pour l'autre, indépendamment du véhicule. Parce qu'un parti politique, c'est un véhicule. Là. C'est un véhicule des idées. Là. Mais derrière ça, puis avec ça, heureusement, il y a des humains.
Mm-hmm. On vous a déjà qualifié de gentleman de la politique. Cette cordialité, voire cette complicité entre adversaires, est une qualité que vous a également attribué Michel Morin, qui va être votre adversaire aux élections de 1994. Êtes-vous conscient en ce moment que vous avez une façon différente de faire de la politique, ou était-ce tout simplement naturel pour vous?
J'aurais tendance à dire peut-être plus naturel. Mais en fait, la préoccupation, ce n'est pas de se servir, c'est de servir les autres. Donc, à partir du moment où ta préoccupation, c'est d'écouter la personne qui t'interpelle, quel que soit le dossier, quelle que soit la préoccupation. Vous savez, quand quelqu'un a pris la peine, on disait dans le temps, de s'habiller en dimanche pour prendre un rendez-vous puis venir à ton bureau, pour cette personne-là, ce dossier-là, qui n'est peut-être pas un gros dossier à tes yeux, mais c'est majeur. Autant d'importance à cette personne-là qu'un représentant d'une grande entreprise. En fait, l'idée... Premièrement, avec les gens avec qui j'ai travaillé, je disais toujours avec humour, occupons-nous des petits dossiers, là, ils ne deviendront pas gros. Les gros n'est pas capable de les régler de toute façon. Très peu de gens, même les gouvernements ont de la misère à régler ça, des gros dossiers. Mais il y a un moment donné que le dossier était peut-être petit. Il y a peut-être bien quelqu'un qui ne s'en est pas occupé. Alors, avec humour, souvent, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, je disais, ce dossier-là que vous m'arrivez un matin, là, ça se peut-tu qu'il y a un mois, as-tu quelqu'un qui n'aurait peut-être bien pas fait son travail, là? Quand tu étais petit, là. Et puis politiquement, tu es gagnant, parce qu'il y a beaucoup plus de petits dossiers que de gros dossiers. Donc, c'était quand même intentionnel de dire « Réglez le petit, là, et on va être gagnant, de toute façon. » Alors, c'est d'humour, mais en même temps, il y a une réalité derrière ça. Il n'y a pas de grosseur de dossier, vraiment. Tu dois porter attention aux demandes des gens sont souvent dans le besoin, puis dans le besoin immédiat aussi, parce qu'on est contre des appareils. Hein. Autant fédéral qu'au provincial, et même au municipal maintenant, ce sont des appareils.
La politique, ça n'a jamais été quelque chose de tendre, mais aujourd'hui, on voit que c'est peut-être encore plus violent que ça a déjà été avec les commentaires dont les politiciens sont la cible, notamment sur les réseaux sociaux. Quel regard portez-vous sur la période trouble actuelle et sur l'exode des élus municipaux?
Ouais, ça, c'est inévitablement relié à ce qu'on appelle les médias sociaux. Ça fait un changement énorme. C'est avantageux. On peut avoir n'importe quelle information sur Internet rapidement, la couleur d'un drapeau d'un pays, n'importe quelle information. C'est étonnant comme tu as une information instantanée. Mais en même temps, le problème, c'est au niveau de la vie privée, au niveau de... T'sais, quelqu'un dans son sous-sol peut t'accuser de n'importe quoi aujourd'hui, sans preuve, passe un autre appel, personne ne vérifie ça, sa vie vient d'être bouleversée par une information qui peut être carrément fausse. On a même à regarder la politique américaine actuellement. Là. C'est assez fascinant de voir là, ce qui se passe et ce qui risque de se passer à nouveau. Là. C'est incroyable. Mais être élu aujourd'hui, il faut absolument être conscient de ça. Il faut vraiment vouloir être élu, effectivement. Parce que on n'est pas il y a 20 ans, puis même il y a 10 ans. Là. Tout est en mouvance, encore plus dernièrement. Là, tu vois des démissions, ce qui est anormal. Là. Puis là, on n'est pas une question de savoir homme ou femme. Là. C'est incroyable tout ce qui se passe au niveau des élus, les questionnements. Les gens veulent l'information tout de suite, sont exigeants. Encore plus avec la période pandémique. Là. C'est où les gens n'ont pas de patience.
Une crise de la courtoisie.
Ça n'existe plus. En fait, l'empathie, ça ne même pas comment l'appeler, là. L'empathie, la courtoisie, vous avez raison, ça existe. Puis, ouvrir la porte, là, quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'il est mal intentionné, il ouvre la porte. On est loin de quelqu'un qui marchait du côté de la rue pour protéger la personne à ta droite. Là. Mais peut-être. Mais le passé, on ne vit pas avec le passé. Là. L'important, c'est le présent puis ce qu'on va bâtir pour le futur en utilisant la référence du passé, en essayant de ne pas faire deux fois la même erreur.
Les élections de 1994 viennent mettre fin à votre parcours provincial. Une vague péquiste déferle, c'est Michel Morin qui l'emporte avec un peu plus de 900 voix de majorité. Quel sentiment vous habitez à ce moment-là, au moment de... Je ne parlerai pas de défaite parce que vous dites que c'est votre adversaire qui a gagné.
Mais je vous dirais que sur le terrain, en campagne électorale, quand je faisais du porte-à-porte avec des organisateurs, une personne sur deux me demandait... Si tu n'es pas élu, Maurice, est-ce que tu reviens comme maire? Ah bon? Oh boy! Et là, on parle d'une partie importante de la population dans le comté, là. Alors, c'est un peu comme si le monde disait, OK, on t'a permis d'aller là un bout de temps, là, maintenant. On t'appréciait plus comme maire. Alors, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas eu, honnêtement, la réaction du lendemain, c'est, OK, je vais redevenir maire de Bécancour. Et c'est ce qui est arrivé. C'est un peu comme si c'était une période où les gens de Bécancour auraient dit, OK, ça va être pratique pour nous autres que tu ailles voir comment ça marche. Maintenant, là, si ça te tente, on t'aimait mieux comme maire que comme député.
Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez entreprises puis que vous auriez... qui sont restées un peu inachevées pendant ces deux mandats? Des dossiers que vous auriez aimé mener à terme?
Pas vraiment, parce qu'en fait, les dossiers ne sont jamais finis, hein, sont jamais terminés. Puis puisque je n'ai pas, moi, à ma mémoire, des dossiers où on pourrait avoir une plaque de bronze pour dire que c'est Maurice Richard, pas du tout. T'sais, on pourrait parler de dossiers, dire, bon, Moulin-Michel, là, c'est qui? Je pourrais vous nommer des deux personnes qui sont les bâtisseurs de Moulin-Michel. Sinon, il n'y aurait pas de Moulin-Michel. La biodiversité, c'est la même chose. Le quai de Saint-Angèle, c'est la même chose. Mais ce n'est pas moi. Sauf que j'ai participé à chacun de ces dossiers-là, là, de façon intéressante. Chacun, mais c'est pas moi. Donc, il n'y a pas de dossier que je rappelle. Puis les dossiers, ça prend du temps. Les dossiers, souvent, sont cheminés sur des années et cheminent sur, des fois, plusieurs mandats. Non, je n'ai pas de regret à ce niveau-là. Au contraire. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est fascinant que je sois toujours actif et qu'on me fasse confiance et que je suis toujours relié au PDG du PAC, M. Donald Olivier, et à son équipe qui est en train de restructurer à nouveau, comme si on créait un nouveau PAC industriel actuellement, et que je sois toujours là maintenant comme conseiller auprès de lui, auprès de Donald. Fascinant que je sois toujours là comme personne de référence.
Avez-vous été par la suite tenté de nouveau par la politique provinciale ou politique autre que municipale?
Non. Non. Non, mais on ne sait jamais l'avenir, hein, d'aucune façon. Là. Moi, je ne suis pas à ma retraite, là. Je suis au travail actif et je suis là où je pense que je suis efficace et c'est fantastique qu'on me fasse confiance. Autant au niveau du conseil d'administration du PAC, qui est présidé par M. Jean Poliquin, que Donald Olivier, qui est le PDG, qui est celui qui m'a remplacé. Donc, je deviens comme, point com, une mémoire vivante et une référence. Autant au niveau, en fait, ma filiation à la ville de Bécancour et au PAC industriel de Bécancour, je pense qu'elle ne peut pas être mise en doute.
Vous revenez donc en 1995 à vos vieilles amours, à la ville de Bécancour, vous l'avez dit. Jean-Guy Dubois décide de quitter pour aller relever d'autres défis professionnels. Vous allez rester à ce poste pendant plus de 16 ans, jusqu'en 2012, avant que le gouvernement du Québec, on sait, vous nomme comme PDG de la Société du Parc. Ça met un terme donc à votre engagement politique. Quelles sont les plus grandes satisfactions que vous en tirez de la vie politique municipale? C'est quand même une longue période, là, 16 ou 17 ans. Plus qu'il y avait avant.
Ouais, ben je vous dirais que je n'ai pas fractionné ça. C'est un tout. Le fait d'arriver au parc, ce que je n'avais pas imaginé, parce que c'est une surprise, en fait, qu'on m'ait appelé un lundi matin pour me dire que tu n'es pas tanné d'être maire de Bécancour. On aimerait te nommer comme responsable du parc. Puisque tu connais la ville, tu connais le parc, tu es là depuis le début. Et tu pourrais être un élément intéressant. Et dans ton cheminement de carrière, ça pourrait être fascinant. Et décide-toi parce qu'il faut avoir la nouvelle pour 3 heures après-midi. C'est comme ça que c'est arrivé, par un premier ministre et par une ministre régionale. Là. C'est intéressant. Là. Beau défi. Alors, je dis oui, bonne idée. Alors, c'est comme si tout ça s'imbrique bien. C'est conseiller, maire, préfet, président de la région, député à l'Assemblée nationale, président de la Société d'État qui est unique au Québec. Aujourd'hui, comme conseiller spécial, toujours au niveau de cette société d'État-là, là, c'est quelque chose comme carrière quand on y pense. Mais en même temps, pour moi, c'est enrichissant et c'est surtout que je suis toujours en action.
Vous avez tout de même évoqué certaines déceptions là, par rapport, entre autres, au fait qu'il n'y a jamais eu aboutissement d'un projet de centre de congrès à Bécancour, taxation plus équitable, certains dossiers qui sont restés inachevés pour vous?
Oui, je n'ai pas de regrets, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut faire attention. Hein. Moi, je n'ai pas le défi de dire je veux faire ça, j'ai promis ça, pas du tout. Je suis partenaire dans la démarche. Centre de congrès, c'est que ce n'était pas le moment pour le faire. Tu sais, aujourd'hui, est-ce quelqu'un qui avait dit que ce serait le même propriétaire, l'hôtel à Nicolette, que l'auberge Godefroy? Là? Pas vraiment. Maintenant, c'est le cas. Actuellement, vous avez dans le développement du PAC, la Société d'État, là, GM en face de Ford, qui est en train de développer pour le domaine des batteries. C'est fantastique. Mais ces associations-là, là, c'est la vie. Là. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'accroche. Je pense qu'un élu qui s'accroche à un dossier comme ça, il fait fausse route. Là. Pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. C'est l'économie, c'est relié à ce qui se passe dans le monde, c'est relié à des marchés, c'est relié à des nouveaux produits. Bel exemple actuellement avec le développement dans le parc gouvernemental, là, développement des batteries, l'électrification des transports à travers le monde. C'est fantastique. Il va falloir former des jeunes en conséquence, toute une relève. Développement de l'hydrogène, toute la vallée de l'énergie, là, avec M. Alain Lemieux, là, puis avec M. Pierre Ducharme, là, qui sont en charge du développement régional élargi. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pensé qu'un jour, on a séparé deux régions, Mauricie, centre du Québec? Actuellement, là, ça n'existe plus, là. C'est vraiment la même région élargie de Shawinigan à Victo, Drummond, Louisville, Trois-Rivières, Bécancour, Nicolet. Formidable, hein? Mais c'est ça la réalité maintenant. Ça avance vite, rapide. La technologie, le développement, la volonté gouvernementale. Et les astres sont bien alignés.
Bécancour a été l'une des premières villes fusion, vous l'avez évoqué, Laval et tout de suite après Bécancour. Une ville qui est quand même assez atypique si on considère le mélange des milieux urbains, zones industrielles, zones agricoles, même une zone de la forêt sur le territoire de Bécancour. Donc, une ville qui aura 60 ans en 2025. Que pensez-vous du résultat?
Efficace et excellent. Premièrement, c'est 11 municipalités rurales, des villages, des paroisses. 11, parce que précieusement, c'était une seule entité. Ces gens-là n'avaient, ou très peu, à part Saint-Grégoire puis Gentilly, qui étaient des gros secteurs, très peu de services publics de qualité à l'époque. Je pense que les gens de Bécancour en ressortent gagnants et vont en ressortir encore plus gagnants dans le futur, parce qu'actuellement, ce qui est en train de se prévoir, nous étions le parc industriel le plus, 7000 hectares, le plus grand au Canada, et le gouvernement vient d'acheter la Prade. Une autre section, il y aura 25 lots éventuellement de développer pour de la PME, petite, moyenne entreprise, ayant comme client les grosses entreprises dans le domaine des batteries. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pensé, il n'y a pas longtemps, que le parc industriel de Bécancour serait agrandi? Incroyable. Mais c'est la circonstance, c'est la situation. Et autant pour la ville, avec la nouvelle, avec la mairesse Lucie Allard et directeur général Grégory, que le PAC avec Donald Olivier, puis le président du PAC industriel, M. Poliquin, ont le défi de bâtir tout à fait quelque chose de nouveau. C'est exceptionnel. Et on parle de milliards, dans certains cas, de planification à court terme. Les usines à Bécancour veulent produire en 2026-2027. C'est demain matin. Et les bâtisses sont en train de sortir du sol, des 12 étages, l'équivalent de 12 étages de haut, là, GM. Là. Ford va être à peu près la même chose en face. C'est, ce qui se passe à Bécancour, c'est unique au Québec là, actuellement. C'est pas une révolution, mais c'est prêt. Là. Et t'interpelle là, la ville de Bécancour et le parc de façon continue, incluant les MRC, nos voisins, Rive-Nord, Rive-Sud. Et ce n'est plus imaginaire. Ce n'est pas quelque chose qui est sur papier, puis qu'on dit ça va peut-être arriver. Et les décisions gouvernementales sont nettement orientées vers... Et là, c'est là que tu constates que l'avantage que le PAC industriel appartient au gouvernement du Québec. Et autant notre député que le ministre Fitzgibbon, qui est en charge du PAC, cette orientation-là, elle est, d'après moi, irréversible.
Vous avez dit deux jours après votre élection, en 1975, que vous aviez une confiance illimitée en l'avenir socio-économique de votre ville. Ça vient, ces événements-là qui se passent depuis deux ans environ, ça vient vous donner raison?
Je ne veux pas avoir raison, mais c'était ma prétention et je l'ai toujours.
Si on revient sur vos années comme PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, elles ont été marquées par de nombreux projets annoncés, mais qui n'ont pas été réalisés. Il y a eu également la fermeture de la centrale nucléaire. On aurait tendance à croire que ça a été frustrant pour vous. Est-ce que c'est le cas?
Non. Et je vais vous dire pourquoi. Chaque fois, on peut les nommer, le IFCO, Stolen and Gas, tous ces dossiers-là ne sont pas venus au Québec. Ça aurait été un peu frustrant si, par exemple, une de ces entreprises majeures-là s'était développée ailleurs. Ce n'est pas le cas. Dans chacun des cas, c'est l'économie mondiale qui a fait qu'on ne pouvait pas réaliser ces dossiers-là. Dans chacun des cas. Alors, non, pas vraiment. C'est ça le rôle. Ce n'est pas un PAC municipal. Hein. C'est un PAC gouvernemental avec des entreprises particulières, avec tous les sièges sociaux à l'étranger. C'est unique, hein? C'est assez particulier. Là. On a parlé, par exemple, IFCO là, pour de l'engrais, de l'urée, avec partenaire financier, la Coop fédérée au Québec, c'est pas n'importe qui. Là. Mais le problème, c'est simple. C'était un exemple, 300$ la valeur, et là, ça tombait à 90$. Il n'y a personne qui aurait investi la tonne. Donc, et chaque dossier, c'est comme ça. Le gaz naturel liquéfié, là, le gaz liquéfié, ben, encore aujourd'hui, c'est trop tôt. Alors, c'est ça. Dans chacun des cas, c'est pas une frustration, c'est tout simplement que c'est un état de situation qu'il fallait tout simplement respecter comme gouvernement et comme société d'État.
Vous l'avez évoqué précédemment, on assiste aujourd'hui à un boom jamais vu avec la filière batterie. Je sais que la question vous a déjà été posée et qu'elle va peut-être vous paraître agaçante, mais est-ce que vous auriez souhaité que ça arrive un peu plus tôt au moment où vous étiez PDG du parc?
Pas vraiment. Je pense qu'il ne faut pas oublier que 2500 personnes, jusqu'à il n'y a pas longtemps, travaillent dans le parc avec des entreprises, des multinationales. Le défi que le conseil d'administration et notre équipe nous avions, c'était d'offrir une qualité de service aux entreprises existantes. En passant, toutes ces entreprises-là qui sont en performance là, actuellement, ces clients-là demeurent dans le parc. Là, ce qu'on fait, c'est comme si au sud, on bâtissait une annexe, un nouveau parc industriel avec des projets ciblés dans le domaine des batteries et au niveau maritime aussi, tout l'accès pour des pièces maîtresses qui vont arriver par bateau, qui change la couleur du parc, mais c'est une expansion majeure dans le parc gouvernemental. Non, c'est tout simplement que ce n'était pas dû que ça se fasse à ce moment-là. Et je pense que l'équipe et le conseil d'administration, au nom du gouvernement, a fait ses responsabilités et la tâche qu'on avait. Je pense que oui. Et c'est ce qui permet, je pense, d'arriver là où nous sommes. Pourquoi les batteries viennent à Bécancour? C'est que le parc industriel est structuré pour les recevoir et est en mesure, avec l'équipe de Donald Olivier maintenant, de développer rapidement, dans des délais très courts, la commande gouvernementale.
Vous y êtes toujours à la société. Je pense que vous êtes enthousiaste par rapport à votre travail. Depuis 2022, vous êtes conseiller. Donc, vous partagez vos connaissances et vos souvenirs, entre autres lors de tours guidés dans le parc industriel. Vous auriez pu prendre une retraite bien méritée. Qu'est-ce qui vous motive à continuer?
J'ai intérêt. Premièrement, moi, je ne suis pas un sportif. Je suis quelqu'un qui aime servir puis être efficace. Et que l'expertise que j'ai, les contacts que j'ai, les connaissances que j'ai servent. Actuellement, c'est flatteur, c'est ça mon travail. C'est effectivement que ma mémoire, que mes expériences, les expériences de travail avec des équipes différentes sont encore utiles aujourd'hui. Je rencontre des gens quotidiennement qui ont laissé le travail et c'est d'une tristesse de voir que ces gens-là, nous perdons leur expertise. D'ailleurs, une volonté gouvernementale actuellement, justement, c'est que les gens qui sont plus âgés reviennent au travail, ne serait-ce que temporaire, mais que leur connaissance, leur atout puisse être utilisé et servir. Dans mon cas, je sers dans un domaine dont j'ai certaines compétences.
Sortons un peu de la politique. Vous avez passé à travers diverses épreuves dans votre vie. Vous avez vu la mort de près à Porto Rico la veille du jour de l'an 1986. 97 morts, 140 blessés. Oui. Racontez-nous un peu, je me mets à votre place. Ça doit vous marquer encore aujourd'hui, ce genre de...
Oui, c'est assez... En fait, c'est une bombe qui avait été mise sous l'arbre de Noël, dans une boîte, une bombe, dans une boîte fictive, parce que les patrons des hôtels de Porto Rico était présent pour négocier convention collective, en tout cas. Et j'étais à côté de la bombe quand ça a explosé dans le hall d'entrée. Donc, j'ai une dame que j'ai pris moi, par-dessous le bras et j'ai sorti parce que je suis un visuel. Donc, même s'il y avait beaucoup de fumée, je savais que si je contournais telle poutre avec certaines planches, je pouvais sortir par une porte qui servait au personnel. Et je pense que je suis une des deux personnes qui a resté en vie. Et la quarantaine de personnes qui étaient dans le hall d'entrée à 3 heures l'après-midi, qui étaient des personnes plus âgées, sont décédés par asphyxie. Donc oui, ça reste dans l'esprit, là, tu sais, tout le monde. Puis c'était Dupont Plaza, un hôtel où les Québécois allaient en vacances. À l'époque, Porto Rico, c'était un endroit de vacances reconnu. Oui, oui, ça fait réfléchir un peu, là, et ça te permet de réévaluer. Mais j'ai eu d'autres éléments de la vie là, qui te font réfléchir. C'est le mot « capoter un jour sur l'autoroute 40 et retrouver à l'envers dans l'auto, dans l'eau, dans un fossé. Chanceux, l'auto qui suivait, c'est un chirurgien d'un hôpital de la région qui suivait. Donc, tout de suite, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu des problèmes avec les yeux. J'ai fait attaque cardiaque. Là. Je me suis payé en 99 5 pontages. 6, c'est rare, apparemment. 5, c'est déjà beaucoup. Et j'ai fait une autre attaque cardiaque l'an passé, là, à ma grande surprise. Mais... c'est ça la vie. En fait, ça fait partie des étapes et de l'expérience qui te permettent que le plus important, c'est aujourd'hui avec vous, en échange, et d'être actif.
Je reviens à Porto Rico. Vous avez un lien quand même, parce que j'ai pu lire que vous aviez déjà possédé un salon de coiffure et d'esthétique à Porto Rico. Racontez-nous, c'est intéressant.
Ouais, à l'époque, moi, j'avais les cheveux longs. Là, et donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit, je ne suis pas quelqu'un qui joue, parce que Porto Rico, c'était aussi avec des casinos. Et je ne suis pas un amateur de plage nécessairement, sauf que en vacances, à l'époque, c'était tous les jours à 5 heures chez le coiffeur. Donc, quand j'arrivais à un endroit en vacances, première chose que j'appointais, c'est quel salon de coiffure proche de l'hôtel où j'irai trois jours. Je me payais la tête, moi, c'était aller chez le coiffeur. Et un jour, j'ai acheté le salon de coiffure. Par hasard, il y avait 5-6 coiffeurs, c'était les coiffeuses, et c'était sur la rue principale, ça tournait vraiment. Un jour, je suis en train de me faire laver la tête, et tout le monde pleure dans le salon. Je dis, oh, il y a quelqu'un qui est décédé. Puis je me débrouille un peu en espagnol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on dit, non, c'est pire que ça. La propriétaire est une dame de Miami, puis elle sortait qu'un portoricain est tanné, puis oui, bye bye, lundi prochain, ma clé d'emporte. Oh boy, une histoire rapide, je vais souper avec la madame, achète le salon de coiffure. Donc, le gérant qui était là m'avait dit, quand j'avais posé question, que c'était un autre propriétaire, il n'y avait pas eux autres, c'était tous des jeunes, le moyen d'acheter le salon. Donc, durant 9 ans, en fait, j'étais propriétaire du salon de coiffure, je ne connaissais rien dans la coiffure, à San Juan, la capitale, San Juan de Porto Rico. Et l'hôtel en question, que vous avez posé comme question tantôt, c'est en face du salon. Alors, après l'explosion de l'hôtel, j'ai dit que c'était une bonne idée d'arrêter d'aller à Porto Rico. Alors, j'ai vendu le salon, le même prix que je l'avais payé, à Josué, qui était le gérant du salon. J'attends encore qu'il me paye, c'est une autre histoire, c'est pas grave. Mais, et je suis retourné par la suite, quelques années par la suite. Mais c'était ça, un lien dans un domaine que je connais pas. Là, et puis quand j'allais à l'occasion, 4-5 fois par année, en fait, j'allais faire un tour à Porto Rico. Et je lavais les têtes pour me prendre pour un autre. Là, et pour m'amuser, en fait. Au même titre que j'ai déjà eu un orchestre aussi, avec des jeunes. J'étais propriétaire de l'orchestre et des équipements. Et
à Porto Rico également?
Non. À Bécancour. Oui, effectivement. Et j'ai été aussi impresario pour un hypnotiseur, qui était un monsieur qui travaillait à Défense nationale à Nicolette et qui était un hypnotiseur, le grand Henri. Et j'étais, moi, son impresario. Et on faisait des spectacles partout, dans Doubinière, coin de Sorel, un peu partout, pour m'amuser. Ça, c'est mon côté culturel.
Parlons de culture. Vous avez une grande passion pour la peinture, un art que vous exercez de façon autodidacte depuis 1976. Vos œuvres se sont trouvées même un peu partout, aux États-Unis, au Mexique, en France. Quelle satisfaction vous tirez de la peinture?
OK. La semaine dernière, je vais à la maison pour personnes retraitées. Un de mes frères est maintenant résident depuis quelques semaines, au Soleil Levant, à Précieux Sang, qui appartient aux Abénaki. Je vais voir mon frère, Jean, je vois une toile. L'église de Précieux Sang, rouge, et puis une belle toile. Ah, mon Dieu, ah, je suis avec une de mes sœurs, je dis, ah, regarde la belle toile. Oh boy, rien là-bas, Maurice Richard. C'est une de mes toiles que le chef de la réserve, pas de la réserve, mais des Abénaki, m'avait c'était procuré il y a peut-être 30 ans, 40 ans, j'ai aucune idée. Alors ça, c'est la satisfaction de régulièrement des gens te montrent des toiles que tu as faites il y a quelques années. Et ça, c'est le côté intéressant qui rappelle que quand tu crées une œuvre, c'est comme si elle t'appartenait tout le temps. Et moi, c'est ma façon de m'exprimer, de me relaxer. J'ai un atelier chez moi et il ne se passe pas une journée sans que je fasse minimum un dessin. Obligatoirement. C'est obligé. Deux choses dans ma vie. Avant de me coucher, je marque c'est une histoire reconnue, là. Je marque sur papier les 5 éléments positifs de la journée et un dessin. Et je m'endors là-dessus. Toujours les 5 éléments positifs de la journée. Et ça, c'est assez fascinant. Je ne les garde pas. Le lendemain matin, je jette le papier. Mais comme ce soir, avant de me coucher, là, je note les 5 éléments positifs qui se sont passés dans ma journée. Ça peut être un téléphone, ça peut être quelqu'un que j'ai rencontré, ça peut être un élément, ça peut être quelque chose que j'ai acheté pour me récompenser. Mais 5 éléments positifs de la journée. Et c'est ça que votre esprit garde durant votre sommeil.
Votre amour de Bécancour, et plus particulièrement pour Saint-Angèle, est manifeste. Vous avez dit que vous avez toujours demeuré, vous êtes toujours demeuré dans la même maison. Parlez-nous un peu de votre attachement à votre ville et votre région.
Oui, ben en fait, au départ, la famille chez nous, on est une des familles qui ont été les fondateurs, entre autres, comme les Déhais, des Carbonneau, des Lys. On est une des familles fondatrices là, des Levasseurs de Saint-Angèle-de-Laval, qui est une île en passant. Là. Donc, et au niveau commerce, c'est la cinquième génération, tout près de la sixième génération, on est au niveau commercial, en plein centre de ce qu'on appelait le village, juste à côté de l'église.
Vous avez des racines acadiennes?
Absolument, des racines acadiennes. Et dans la même lignée que le vrai Maurice Richard, là, que j'ai rencontré d'ailleurs au moins trois reprises, les mêmes origines, Zachary Richard et la même lignée, appelons ça comme ça. Là. Donc ça, cet amour, en fait, de Saint-Angèle le long du fleuve, que tu ne vois plus, là, parce que tu es à côté, là, élevé. Et en plus, l'avantage qu'on avait à Saint-Angèle, c'est qu'on était à 15 minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Le pont nous a éloignés. Parce qu'en fait, nous, là, quand on allait pour prendre le bateau, le capitaine nous connaissait, puis nous attendait, puis nous klaxonnait pour dire « Dépêchez-vous, là, je pars ». Et là, on courait sur les quais pour prendre le bateau. Et 15 minutes plus tard, on était sur la rue des Forges. Donc, on était reliés là, à ce phénomène-là qui est le fleuve et la proximité de la capitale régionale. Donc, Saint-Angèle était gâté au niveau des services. T'as besoin de quelque chose, hein? Pharmacien, nous, à Saint-Angèle, c'est la pharmacie Poliquin. Là, Jean Poliquin, qui est président du parc, là, son père était pharmacien, puis c'était la pharmacie qui desservait la Rive-Sud, dont Saint-Angèle-de-Laval. Donc, ce lien-là de proximité, puis d'être quelqu'un vraiment de Saint-Angèle, m'a permis de jamais changer d'adresse. C'est là, même les relations que j'ai eues avec des personnes qui pouvaient être à l'extérieur de Saint-Angèle, mais j'ai toujours eu, moi, mon adresse, c'était toujours à Bécancour, à Saint-Angèle.
Quel avenir pour Bécancour? Je pense que vous êtes visiblement enthousiaste de ce qui se passe présentement.
Okay. L'avenir de Bécancour, on n'a qu'à réfléchir à ce qui se passe maintenant, par exemple, au niveau de la ville. Là. Autour, par exemple, du plateau Laval, où il y a énormément de développement, une école est en construction, un centre commercial inévitablement, où des services de base vont se bâtir inévitablement, parce que là, tu as au-delà de 1000 terrains en train de se développer d'ici les prochaines années, seulement plateau. Après ça, il y a aussi un développement, et j'annonce rien au nom de la municipalité, là, de plusieurs centaines de logements à proximité de ce qu'on appelle le Mont-Bénild, et en bas et en haut, actuellement. Là. Et beaucoup de logements devraient voir jour d'ici même en 2024. Donc, il y a tout un développement qui est en train de se faire avec la volonté aussi, qui n'est pas cachée parce qu'elle est là depuis des années, le lien entre le plateau Laval et l'autoroute 30. Donc, le plateau, qui est effectivement un immense, physiquement, un immense plateau, des centaines de logements, déjà aujourd'hui. Il y a plus de monde au plateau Laval actuellement que dans le secteur de Saint-Angèle, là, actuellement. Avec un lien sur le bord du fleuve, la 132, et éventuellement un lien sur l'autoroute 30. Donc, un endroit où ça va se développer dans les prochaines années pour la ville de Bécancour, inévitablement, c'est Saint-Angèle. Et en passant, c'est ce qui était prévu au tout début de la ville. Au tout début de la ville, ça a été dézoné. Puis quand est arrivé ce qu'on a appelé zonage agricole, où beaucoup de choses étaient peinturées en vert, ils appelaient ça comme ça dans le temps, le plateau Laval, en ce qui concerne la ville de Bécancour, a été maintenu zone blanche.
C'est un bon territoire.
Absolument. Oui. Et merci de l'avoir préservé, là, puis l'avoir gardé, parce que ça permet à la ville d'avoir un bloc assez énorme d'espace déjà dézoné, prêt à faire du développement.
Parce que les défis sont importants pour réussir à répondre aux besoins en termes de logement ou même d'infrastructures routières. Est-ce qu'on va y arriver, d'après vous, dans les prochaines années avec tout ce qui se passe?
La réponse est oui. Bon, au niveau du résidentiel puis du commercial, personnellement, je n'aurais pas cette préoccupation-là parce que les gens d'affaires, ils servirent assez vite. Là. Les gens d'affaires, dis-moi où je peux me bâtir, je vais y aller me bâtir. Et déjà, il y a déjà des promoteurs que bâtir du résidentiel, ça se fait maintenant en quelques jours, assez rapidement. C'est assez intéressant. Ça, c'est résidentiel, appelons ça résidentiel commercial. Parallèlement à ça, il faut absolument la formation. Ça, c'est une préoccupation de Donald Olivier et son équipe et Mme la mairesse, là, actuellement. Comment on ferait une formation sur le territoire de Bécancour même? Donc ça, c'est en train d'être actuellement tout préparé par les cégeps et notre université. C'est le cégep de Drummondville, M. Pierre Leblanc, entre autres, qui est en charge avec ses collègues des autres collèges, Rive-Nord, Rive-Sud et de l'UQTR, de regarder, préparer la formation. Là, on est en train de regarder quel site ça devrait être. Et un des scénarios peut être la Prade. C'est un des scénarios. C'est en train, on devrait assez rapidement, d'après moi, savoir est-ce que c'est un site qui existe ou est-ce qu'on bâtit un nouveau bâtiment en fonction de ça, mais une formation rapide par les collèges. Parce que le besoin au niveau des entreprises actuellement, le besoin, c'est à peu près 50 % ont besoin seulement d'études collégiales pour les futurs employeurs. Les futurs employés, je m'excuse. Et à peu près 20 % si l'information que j'ai est bonne, ça a besoin d'universitaires. Donc, la moitié, là, c'est quelqu'un qui a besoin d'une formation d'un an et demi, par exemple, au niveau collégial. Intéressant, là, pour les milliers d'emplois qu'on aura besoin dans les grandes entreprises dans le domaine des batteries.
Donc, on comprend un peu pourquoi vous n'êtes pas pressé de prendre votre retraite.
Ben, en tout cas, c'est pour moi un moment intéressant et c'est même un plaisir actuellement d'être dans le parfum de tout ce qui se passe actuellement au niveau du Bécancour élargi et de la région Mauricie-Centre du Québec.
Maurice Richard, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Les grandes entrevues sont une production de Via 90.5. Entrevues, recherche et montage, Jocelyn Ouellette. Collaboration à la production et à la diffusion, Éliott Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.